Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio Audible. Polar, roman ou science-fiction, téléchargez et écoutez vos livres audio sur l'appareil de votre choix. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Chanter, danser, embrasser qui vous voudrez, c'est le titre d'une exposition qui se tient jusqu'au 29 février au Louvre-Lens. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son commissaire. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Xavier Salmon du Louvre est un grand connaisseur des grâces et des urbanités du XVIIIe siècle. Je suis ravi de le recevoir pour évoquer aujourd'hui la fête galante.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Anne-Cécile sur l'origine des bibliothèques publiques.
Bonne question et qui en pose d'autres entre nous. Pour le moment, je tire des rayons de la bibliothèque une biographie, comment pouvons-nous la décrire, un peu fanée, un peu cornée, d'une des plus charmantes amoureuses du siècle des amours, la comédienne Adrienne Lecouvreur, qui mourut peut-être d'avoir trop aimé.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans le catalogue de cette exposition du Louvre-Lens, Xavier Salmon écrit, je le cite, « Après les dernières années du règne de Louis XIV, sombre et rendu austère sous l'influence de la dévote Madame de Maintenon, la France aspira à plus de liberté et de joie de vivre. Le temps de la régence libéra les idées et les mœurs, repensa le système de gouvernement et les finances, prit le contre-pied de la politique religieuse de Louis XIV et renversa les alliances politiques. Cette période de hardiesse, de gaieté et de fantaisie fut aussi pour les arts un temps de nouveauté qui irradia l'ensemble du XVIIIe siècle en France et dans toute l'Europe. » Bien. La fête galante imprègne de son esprit à la fois délicat et quelque peu sulfureux les marges de la bonne société, à commencer par le théâtre, qui est en train d'évoluer lui aussi vers plus de naturel et de liberté. Embarquant pour Cythère cet après-midi, j'aimerais vous présenter l'une des actrices les plus célèbres de cette époque. Elle pourrait être abonnée aux utilités légères de la comédie, mais non. Celle-ci est tragédienne. Son nom est resté dans les mémoires des souffleurs et des régisseurs, Adrienne Lecouvreur. Alexandre Dumas, dans Louis XV et sa cour, écrit « Elle appartenait à cette rare école d'artistes dramatiques qui parle la tragédie et qui, tout en rompant la mesure du vers, sait conserver à la période son harmonie poétique. » Elle est née une veille de Pâques, la divine Adrienne. Elle est née à la fin du règne de Louis XIV, le 5 avril 1692, en Champagne, près d'Épernay, à Damery. Son père, Robert Couvreur, est un ouvrier chapelier, un homme assez grossier, il faut bien le dire, violent, alcoolique. Lorsque la petite fille a 10 ans, elle suit sa famille à Paris, ce qui, pour l'époque, est un rude bouleversement. Les Couvreurs s'installent près de la Comédie française, qui se tient à l'époque rue des Fossés-Saint-Germain, c'est l'actuelle rue de l'Ancienne Comédie, dans le quartier de l'Odéon. Adrienne Couvreur, c'est son nom. À cette époque, évidemment, Adrienne est bientôt confiée aux filles de l'instruction chrétienne. Puis la famille déménage sur l'autre rive de la Seine, dans le quartier du Temple. Adrienne intègre alors, elle est toute jeune encore, elle intègre une petite troupe de comédiens qui répètent un spectacle comprenant une tragédie et une petite pièce. C'était généralement le cas. On jouait deux pièces, une grande et une plus petite, lors des matinées d'alors. La tragédie n'est autre que Polyeucte de Corneille et la petite pièce s'intitule Le Deuil. C'est une piécette en un acte et en vers signée du frère du grand Corneille, Thomas. Tout de suite, Adrienne se distingue par son talent. À peine sortie de l'enfance, elle déclame Corneille mieux que personne. Seulement, il faut vous dire qu'à Paris, le théâtre à cette époque est un monopole qui appartient aux acteurs du théâtre français ou de la comédie italienne. Mais enfin, en tout cas, c'est un monopole. La police ne tarde donc pas à intervenir et les représentations sont annulées. Seulement, Adrienne a été remarquée par un professeur de théâtre qui s'appelle Legrand et que connaissait une de ses tantes. La petite n'a que 13 ans, mais elle a déjà ce talent qui saute aux yeux. Le grand s'entiche d'Adrienne, il lui donne des cours de diction. C'est lui qui a l'idée d'ajouter, à défaut d'une particule, au moins un article à son patronyme. Il la baptise Adrienne le Couvreur. Et puisqu'il n'est pas possible de jouer à Paris sans l'autorisation du roi, pourquoi, lui dit-il, ne pas aller tenter sa chance en province? Le grand recommande Adrienne à une amie, mademoiselle Fompré, qui dirige le théâtre de Lille, qui avait été créé quelques décennies plus tôt. L'essai est convaincant. Adrienne, le Couvreur, est engagée. Elle va enchanter les Lillois avant de conquérir Nancy, puis Lunéville, autant dire la cour du duc de Lorraine, à l'époque le grand Léopold Ier. À propos de Lunéville, voilà ce qu'écrit Pierre Germain. Le parc du château est somptueux, avec ses jardins à la française et ses parterres, des terrasses, on accède au plan d'eau par des degrés majestueux bordés de fontaines et de cascades étagées qui font l'admiration des invités charmés. La danse, le jeu, la chasse, les représentations du théâtre occupent les loisirs de Monseigneur le duc de Lorraine. Adrienne est déjà la nymphe des bosquets de Lunéville. Bientôt, elle grimpera encore quelques échelons pour devenir première actrice du théâtre de Strasbourg. Elle est si gracieuse, si jolie, si mutine, la divine Adrienne, presque une femme à présent. Elle avait une petite bouche rouge et charnue, raconte André Castelot. Une de ces bouches enfantines que l'on voit sur le portrait du XVIIIe siècle et que les élégantes du temps essayaient d'obtenir en répétant chaque matin durant une heure devant leur miroir ces cinq mots. Un petit pruneau de Tours, un petit pruneau de Tours, un petit pruneau de Tours. Ses cheveux blonds encadraient, nous dit-il, un visage délicat, frais, sensuel, des joues assez pleines, de grands yeux expressifs. On n'est pas chaste dans un tel milieu, avec un tel physique, chanter, danser, embrasser qui vous voudrez. Voici Adrienne dans le lit d'un comédien, Clavel, puis dans celui d'un officier du duc de Lorraine, Philippe Leroy. C'est lui qui, officiellement du moins, sera le père de sa fille Élisabeth Adrienne. Nous sommes encore là sous Louis XIV en 1710, mais... vous aurez bien noté qu'on est aux marches du grand royaume. À Strasbourg, Adrienne rencontre un jeune homme aussi charmant qu'elle est ravissante, tout blond, avec des yeux tout bleus. Il s'appelle François-Joseph Clingin. Il est le fils du premier magistrat de la ville et il sera, de manière incontestable cette fois, le père de la seconde fille d'Adrienne qui s'appelle Françoise Catherine Ursule. Attention, là, nous sommes déjà... en 1716, la France vient de chavirer dans la Régence. Le beau François-Joseph ne rêvait pas, ne pouvait quand même pas aller épouser une comédienne. Il se marie avec un parti décent. Et Adrienne, pauvre chérie, pauvre et conduite, n'a plus qu'à quitter Strasbourg pour rentrer à Paris.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et grâce à vous Franck Ferrand, l'après-midi est festive et bucolique sur Europe 1 puisque nous revivons les fêtes galantes du XVIIIe siècle, notamment grâce au parcours et à la vie de la comédienne Adrienne le Couvreur.
Et oui, nous sommes le 14 mai 1717 et Mademoiselle le Couvreur fait ses débuts à la Comédie française. Exactement au même moment, Monsieur Watteau est en train de peindre le pèlerinage à l'île de Cythère dont nous allons parler tout à l'heure. La belle a 24 ans. Comme pour toutes les débutantes, il lui faut jouer alternativement tragédie et comédie. Alors pour le sérieux, ce sera dans un premier temps l'Électre de Crébillon et pour le rire, le rôle d'Angélique dans Georges Dandin de Molière. Puis Adrienne épouse les destins de Bérénice, d'Iphigénie, de Phèdre et de la Chimène du Cid. À l'époque, les pièces que l'on reprend ainsi ne sont jouées que quelques jours, mais on joue énormément. En 10 mois, lors de la seule année 1717, Adrienne joue 139 fois. À la Comédie française, on est tout près de son ancien domicile, mais aussi au Palais Royal, en attendant que la cour n'aille se réinstaller à Versailles. Et je puis vous dire qu'Adrienne a bien du succès. À la scène comme à la ville. Restons à la scène, si vous le voulez. Voici ce qu'on peut lire dans les lettres historiques sur tous les spectacles de Paris. Je cite « Quoiqu'elle ait fort peu de voix, elle plut d'abord au public et continue de lui plaire parce qu'il trouve en elle un jeu nouveau, naturel, et d'autant plus agréable qu'elle s'est étudiée à le ménager adroitement et à le proportionner à ses forces. Et ainsi, on peut dire que son défaut de poitrine a contribué à ce genre de perfection. Elle n'a pas de coffre, Adrienne, mais combien de charme. Comment s'étonner qu'on lui confie la création de nouveautés comme l'Annibal de Marivaux. On l'applaudit aussi, par exemple, dans Le Nouveau Monde, une pièce écrite par l'abbé Pellegrin, agrémentée de musique, de danse, tout ça dans des décors qui, justement, ne sont sont pas sans évoquer certaines des pastorales de Watteau. Voltaire, qui s'y connaît en jolie femme et en talent de tous ordres, la repère, il lui confie le sort de son indiscret, Marivaux récidive avec la seconde surprise de l'amour, où elle interprète la marquise, mais l'auteur de toutes les grâces, de toutes les légèretés, lui trouve un jeu somme toute trop classique ou justement pas à cette voix, bref, il s'en détourne et lui préfère d'autres comédiennes. Qu'importe, alors qu'elle commence à se faire un nom, Adrienne, déjà mère de deux enfants, vous l'aurez retenu, mène une vie débridée. Elle est fort riche, elle adore les bijoux qu'elle collectionne au même titre que les amants. Voltaire, faut-il le préciser, le chevalier de Rohan, Lord Peterborough pour la touche exotique. Elle reçoit également les déclarations enflammées du jeune comte d'Argental qui a 8 ans de moins qu'elle. Il lui propose même le mariage et malgré ses refus, il continue de lui écrire des lettres d'amour. En 1720, elle a 28 ans, mais elle ne les paraît pas. Adrienne le Couvreur est présentée à un grand personnage, celui qui va devenir le premier soldat de son siècle, Maurice de Saxe, fils bâtard de l'électeur de Saxe, et déjà maréchal aide-de-camp, maréchal de camp. Il a 24 ans. Saxe a beau être marié, à l'époque ça veut dire encore moins qu'aujourd'hui, mais enfin il a la réputation d'un bourreau des cœurs. Il enchaîne de son côté les aventures galantes et la belle tragédienne ne tarde pas à succomber. Dès la première entrevue, raconte André Castelot, Adrienne adore celui qui, selon le mot de Voltaire, alliait la vigueur d'Hercule à la beauté d'Apollon. Mais en comédienne adroite, elle décide de se faire un peu prier et de se laisser seulement éblouir au moment choisi par elle. Maurice lui raconte ses campagnes militaires, d'abord contre la France et puis maintenant au service des Français, contre les Suédois, les Turcs, les Polonais. Adrienne le couvre de billets doux. À quoi pensiez-vous ? Vous ne comptez pas assez sur moi et j'ai grand peur de trop compter sur vous, écrit-elle. Cependant, je sens bien qu'il n'y a pas moyen de s'en dédire et que je suis plus à vous qu'une autre qui y serait davantage. N'est-ce pas bien dit ? Vous avez eu le bon esprit de le connaître et de n'en pas abuser et vous avez choisi la route la plus sûre pour achever de me tourner la tête et pour donner à notre intelligence le ton le plus propre à nous procurer du plaisir et nous rendre heureux. Comme on écrivait bien dans ce 18e siècle de la galanterie. « Je me tiens pour engager à vous, écrit-elle dans une lettre un peu plus tardive, et je vous jure une fidélité à toute épreuve. Vous allez faire un long voyage, vous pourriez douter de moi si vous n'aviez cette preuve de mon courage. J'aurais sujet de douter de vous si je ne vous laissais rien à désirer. » Elle s'est mise en tête de faire de ce guerrier Rustaud un homme galant. Xavier Salmon nous dit « Le galant est celui qui sait plaire en société par l'élégance de son allure, la politesse raffinée de ses manières et sa finesse d'esprit. Ses scènes célébrant l'amour courtois font écho à la littérature contemporaine, recueils de poésie ou d'emblèmes, livres de chants et traités de sociabilité dont les plus consultés étaient des ouvrages français. » Ça, on n'en aurait pas douté. Maurice de Saxe, néanmoins, préfère la guerre aux conquêtes, si je puis dire, et la chasse aux ébats. En 1725, sa campagne pour le duché de Courlande le met tout de même un peu sur la paille. Alors il va écrire à la douce Adrienne pour qu'elle racle un peu ses fonds de tiroir. Il y a aussi cet aspect dans le 18e siècle, c'est obligé. Elle vend des parures, des diamants et jusqu'à son carrosse. 40 000 livres sont ainsi réunis pour être offerts à Maurice de Saxe, qui en fera assez mauvais usage, puisque l'expédition sera sans succès. Allons, qu'importe au fond, chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Et cet après-midi sur Europe 1, grâce à Franck Ferrand, nous découvrons le destin et la vie de la comédienne Adrienne Le Couvreur, comédienne du 18e siècle. Vous pouvez d'ailleurs réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au 18e siècle sur les traces de la comédienne Adrienne Le Couvreur. Alors on l'a vu, Franck, elle est tombée amoureuse de Maurice de Saxe qui a préféré la guerre à Adrienne et du coup elle l'attend.
Et oui, et tandis que Maurice de Saxe guerroie en Courlande, c'est loin la Courlande, c'est là-haut sur la Baltique, Adrienne le couvreur attend, patiente et se languit. Elle attendra ainsi près de 3 ans le retour du guerrier et se console sans trop de conviction en attendant de pouvoir le consoler lui. Du reste, Maurice, une fois revenu, la trompe. Elle lui écrit rageuse. Ou vous voulez rompre, ou vous comptez infiniment sur ma douceur et sur mon goût pour vous. Ne vous contraignez point. Je ne puis souffrir d'être trompé. Et si vous avez à me quitter, quelle idée et quelle parole. Mais enfin, si vous voulez absolument rompre, je ne puis continuer. Mon cœur dément et ma main et ma plume. Le coup de grâce de cet amour intervient un soir à la Comédie Française où Adrienne est Phèdre, informée le matin même d'un énième coup de canif au contrat, d'une énième infidélité du cher Maurice. Adrienne le voit pénétrer au parterre. Elle en était à la réplique suivante. Phèdre s'adresse à Hippolyte, vous savez, à défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Et là, elle se jette sur le comédien qui est avec elle, lui arrache son glaive et se lance en direction du comte de Saxe devant les spectateurs médusés. La nouvelle amie tendre du grand Maurice de Saxe est alors la haute et puissante dame, duchesse de Bouillon en personne, par ailleurs maîtresse en titre du comte de Clermont. C'est cette figure de théâtre qui, capricieuse, violente, emportée, devient la rivale d'Adrienne pour son malheur. Le dimanche 24 juillet 1729, la comédienne rentre de la messe. Elle trouve chez elle un billet anonyme, venu d'un inconnu. « Vous serez surprise qu'une personne que vous ne connaissez point vous écrive pour vous prier de vous trouver demain lundi à 5h30 du soir sur la grande terrasse du Luxembourg où vous trouverez une personne qui vous instruira plus amplement. Vous la reconnaîtrez à ce signe, un abbé qui frappera 3 coups sur son chapeau en vous abordant. » Alors le lendemain, au lieu dit, elle voit effectivement approcher un jeune abbé tout bossu qui frappe par 3 fois le rebord de son chapeau. À mi-mot, il lui parle d'une tentative d'empoisonnement. Il lui fixe un autre rendez-vous pour le surlendemain. Que fait Adrienne? Elle appelle au secours Maurice de Saxe. Et c'est caché, un peu comme dans une scène de comédie, que le grand capitaine va entendre les confessions de cette espèce d'abbé qui s'appelle Siméon Bourret. Bourret est venu à Paris depuis sa Lorraine pour se faire peintre. Il a été mis en contact avec la duchesse de Bouillon, dont il avait fait le portrait d'un des valets. La duchesse de Bouillon, vous voyez qu'elle est là, elle est présente dans cette affaire, dans la coulisse. Il s'est vu proposer, Bourret, une forte somme pour faire ingurgiter d'une manière ou d'une autre à mademoiselle le couvreur des pastilles empoisonnées. En tout cas, on peut imaginer qu'elle l'était. L'affaire est pleine de rebondissements et je ne vais pas entrer dans les arcanes de toute une enquête. Sachez qu'en tout cas, le dossier va atterrir sur le bureau de monsieur le lieutenant général de police. Ce dernier demande les pastilles à l'abbé. Il les expérimente sur des chiens sans résultat bien concluant. On se demande d'ailleurs si les pastilles en question n'étaient pas simplement une sorte de filtre d'amour. On est au siècle de la fête galante, trompée, mentée, empoisonnée, qui vous voudrez. Le 10 novembre 1729, Adrienne incarne à nouveau son personnage fétiche, celui de Phèdre. À l'époque, la salle demeure éclairée pendant la pièce et la comédienne n'est pas sans remarquer, au premier rang d'une belle loge, la duchesse de Bouillon, qui se découpe sur la silhouette de Maurice de Saxe. Adrienne se racle la gorge et c'est Monsieur Racine qui fournira le texte. « Je sais mes perfidies, Eunone, et ne suis point de ces femmes hardies qui, goûtant dans le crime une tranquille paix, ont su se faire un front qui ne rougit jamais. » Tout ça dit en regardant bien dans les yeux la duchesse de Bouillon, sidération du public. Quelques mois plus tard, le 14 mars 1730, Adrienne joue la surprise de l'amour devant la cour à Versailles. Elle est alors très affaiblie, elle tousse sans arrêt, elle se plaint de maux de poitrine et de fréquents malaises jusqu'à devoir s'interrompre plusieurs jours d'affilée. La voici maintenant dans Œdipe de Voltaire. Il y a de quoi tomber malade, entre nous soit dit, mais enfin je ferme cette parenthèse. Puis dans une comédie aujourd'hui oubliée de La Fontaine, Le Florentin, d'ailleurs c'est un texte, Le Florentin, qui avait été écrit par La Fontaine comme un pamphlet contre Lully. Je ferme aussi cette parenthèse. Sortie de scène, Adrienne se rue chez elle épuisée, presque morte. Maurice de Saxe, qu'elle aime comme au premier jour, sent bien qu'il est temps, grand temps, de venir la voir. Il arrive, il se présente, on dirait la dernière scène d'un opéra. Il y a un peu de Manon, finalement, dans tout ça, avec quelques décennies d'avance. Voltaire est là, dans un coin, ce 20 mars 1730, à 11h du matin. Adrienne le couvreur s'éteint comme une flamme dans les bras du maréchal de Saxe. Elle allait avoir 38 ans. Alors, a-t-elle été empoisonnée? Certains le pensent, la comédienne qu'elle était, considérée comme impie, mon Dieu. L'actrice au corps parfait est simplement recouverte de chaux vives et oubliée dans un terrain vague des rives bourbeuses de la Seine. Quand je dis la Seine, S-E-I-N-E. Bonjour Xavier Salmon.
Bonjour.
Cela commençait comme un tableau de Watteau et ça finit dans une noirceur qui n'a plus grand-chose de galant. Grâce à vous, dans un instant, nous revenons à des préoccupations autrement légères.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous nous intéressons aux fêtes galantes du XVIIIe siècle. Franck Ferrand, grâce à votre invité, Xavier Salmon, directeur du département des arts graphiques du musée du Louvre, commissaire de l'exposition « Dansez, embrassez qui vous voudrez » du 5 décembre jusqu'au 29 février au Louvre-Lens.
Alors, Xavier Salmon, j'ai commencé par le théâtre et c'est à dessein. Parce qu'en vérité, les premières scènes peintes de cette fête galante sont d'abord des scènes théâtrales. Il y a quelque chose de volontairement théâtral dans cette fête-là.
Effectivement, tous ces artistes, Watteau, Boucher, Fragonard, ont été des amis des auteurs de ce temps. Des créateurs de ballet.
On a souvent rapproché Watteau de Marivaux, bien entendu.
Hein. Tout à fait. Et on a indiqué que l'un des tout premiers à avoir illustré la fête galante était Dancourt.
Voilà.
Donc tout ce milieu échange, se rencontre. Il faut imaginer qu'on se reçoit, même si Watteau a la tradition d'un être un petit peu renfermé, un peu atrabilaire.
C'est curieux parce que ça n'est pas ce qui ressort de ces extraordinaires scènes champêtres, pleines de grâce, de douceur, de ces personnages quasi diaphanes, couverts d'étoffes chamarrées et de soirées rutilantes.
Il avait peut-être besoin justement de s'isoler de ce monde qu'il fréquentait assidûment pour se plonger dans les secrets de la peinture et livrer les chefs-d'œuvre poétiques qu'il nous a laissés.
On peut imaginer que la peinture est naturellement au cœur de cette exposition, même si l'expo fait une large place aux arts décoratifs, on y viendra tout à l'heure. J'ai sous les yeux le tableau d'Oudry intitulé « La France » et je pense qu'il est difficile de se laisser bercer par tant de poésie sans sentir un pincement au cœur. Qu'est-ce que c'est que cette France de l'époque? Eh bien, c'est une sorte de paysage parfaitement serein, une nature grasse et opulente, une charmante ferme très accueillante avec des petits personnages pleins de couleurs, des vaches qui paissent tranquillement. On a l'impression d'une sorte de scène d'Éden, en fait. C'est un petit paradis que la France vue par Oudry et par ses compagnons de l'époque.
Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que cette France, elle n'est pas vue par Oudry, elle est vue par le dauphin. Donc le fils de Louis XV, le père de Louis XVI, qui passe la commande en 1750 et qui donne des consignes très précises à l'artiste. C'est-à-dire qu'il veut une France effectivement heureuse. C'est pour lui un moyen de montrer que le gouvernement de Louis XV est un gouvernement qui apporte
la prospérité, la tranquillité.
Oui. Et en même temps, c'est un hommage, même s'il n'aimait pas du tout Madame de Pompadour, à ses idées nouvelles que la marquise défend, puisqu'elle a dans son entourage proche François Quesnay, qui est un des défenseurs de l'agriculture et qui met en valeur cette classe paysanne en expliquant que la seule qui compte finalement dans la société du temps, c'est cette classe paysanne parce que c'est elle qui tire de la terre le produit, les produits qui vont permettre au reste de la société de vivre.
Vous avez prononcé un nom qui ne nous laisse indifférents ni l'un ni l'autre, c'est celui de Madame de Pompadour bien entendu. C'est à elle que nous devons le titre de votre exposition?
Tout à fait, on pense que c'est elle qui compose cette chanson en 1753. Pour les enfants du village qui se trouve à proximité de l'hôtel d'Evreux, l'actuel palais de l'Élysée, donc le lieu où...
On est aux limites de Paris, en dehors de
oui,
Paris.
C'est la campagne. Mmh. Et pour ce faire, elle use à nouveau de ce double langage que la France du XVIIIe siècle a particulièrement aimé, puisqu'il semble qu'elle se soit inspirée d'une chanson médiévale, d'un texte médiéval, qui rappelait que dans ces époques lointaines, lorsque le couple était mal assorti, il avait la possibilité, un jour par an, bien d'aller voir ailleurs. On a aussi évoqué le fait que les maisons de prostitution, pendant très longtemps, sous l'Ancien Régime, ont été indiquées à leurs clients par l'intermédiaire de rameaux de laurier qui étaient disposés au-dessus des portes.
Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser.
Et c'est un message de Madame de Pompadour. Alors certes, la chanson est aujourd'hui interprétée pour les enfants, mais à l'époque, elle la donne aussi, elle l'offre à Louis XV et à la cour pour rappeler que si les lauriers sont coupés, c'est effectivement qu'elle n'est plus la maîtresse de Louis XV et qu'elle est devenue l'amie, la conseillère, la femme qui a une dimension politique. Et c'est tout cet art justement du double langage que la fête galante et la pastorale vont porter également.
Entrez dans la danse, voyez comme on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Vous avez gardé donc ces termes, dansez, embrassez qui vous voudrez, pour nous entraîner dans une sorte de ronde. Ça fait du bien, par les temps qui courent, de pouvoir se dépayser complètement et de pouvoir rêver à cette fête galante. Alors qu'est-ce qu'on appelle la fête galante? Si vous deviez la définir, comment la définiriez-vous?
Alors, c'est comme on peut le lire et le découvrir dans l'exposition, c'est une manière d'être dans une certaine classe sociale, donc de se comporter en présence des dames, de maîtriser la langue, d'être galant. C'est un genre, c'est un thème pictural qui apparaît en 1717 avec le fameux tableau de Watteau, ce pèlerinage à Cythère, puisque à cette occasion, donc, les académiciens, cette œuvre permet à Watteau d'entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, donc dans un premier temps désigne le tableau comme le pèlerinage à Cythère, puis dans le procès-verbal de cette réception, le raye et le remplace par le mot de fête galante.
Ce tableau, qui est un tableau de taille moyenne, est un des chefs-d'œuvre du musée du Louvre, une des célébrités, si je puis dire, du musée du Louvre. Il incarne à lui tout seul cet esprit du XVIIIe siècle. Alors il y a la grâce, il y a la tranquillité, mais il y a le mouvement aussi, puisqu'on voit ces trois couples qui, dans une espèce d'enroulement cinétique, ont l'air d'être un seul couple qui se relèverait en quelque sorte. Et certains disent que ce pèlerinage à l'île de Cythère est plutôt un rembarquement vers le continent et loin des amours de Cythère.
Oui, c'est toute la question qui taraude les historiens de l'art depuis des décennies. Est-ce que ces gens sont à Cythère et quittent Cythère, ou est-ce qu'ils s'embarquent vers Cythère? Pour moi, c'est avant tout presque une gamme musicale.
C'est ça.
Et c'est la dimension justement de théâtrale, musicale, de l'art du ballet qui est profondément une source d'inspiration pour Watteau. Et effectivement, cette farandole qui nous présente des couples de face, de trois quarts, de biais, de dos, correspond aux étapes du sentiment amoureux, depuis celle qui, tout à droite de ce tableau, donc hésite, elle est assise au pied d'un arbre, au pied de la statue de Vénus, elle n'a pas encore pris sa décision.
Je pense qu'on peut parler d'un sommet de civilisation. Il s'agit bien de l'amour considéré comme un passe-temps.
C'est l'amour considéré comme un passe-temps. C'est l'amour aussi qui, à l'époque, est l'apanage d'une certaine classe sociale.
Alors, évidemment.
Louis XIV, vous savez, a muselé son aristocratie, lui a enlevé la guerre, le commerce, et donc l'a finalement enfermé dans un monde
oisif.
Voilà, dans un monde de délassement. Mais ce que Watteau veut nous montrer dans cette œuvre, c'est que certes, cet art de la galanterie est l'apanage des plus hautes classes de la société, mais qu'il est aussi un sentiment universel. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde de très près cette farandole, eh bien, on découvre au sein des couples, eh bien, des paysans qui sont là pour montrer que l'amour, il est
n'appartient porté pas à une classe.
Exactement.
C'est tout le paradoxe, en fait. C'est que plus on avance dans la fête galante et plus on est dans la pastorale. Bien sûr, Boucher, Fragonard vont peindre des scènes qui sont purement bucoliques, qui se passent à la campagne, avec d'ailleurs une sorte d'idéalisation aussi de la campagne.
À nouveau, en empruntant à l'art du théâtre, parce que l'art de la pastorale est un art poétique qui s'est développé dès les dernières décennies du XVIe siècle et qui a connu au XVIIe siècle un best-seller qui est l'Astrée d'Honoré d'Urfé. Et cet Astrée est encore excessivement lu dans les premières décennies du XVIIIe. Il est dans la bibliothèque de Watteau, il est dans la bibliothèque de la plupart de ses artistes. Et il nous décrit effectivement l'Arcadie, qu'avait aussi peinte Poussin dans Les Bergers d'Arcadie, et qui est un monde pur dans lequel les sentiments triomphent.
Alors nous sommes avec les petites bergères et les arlequins de Marivaux et de Watteau. Pour l'instant, nous tournons autour de l'exposition. Ce que je vous propose maintenant, Xavier Salmon, c'est d'entrer dans l'exposition et de la visiter à vos côtés.
fêtes galantes, ce sont ces réunions ludiques en plein air, mais c'est aussi un terme utilisé en peinture et on en parle grâce à vous, Franck Ferrand, puisque vous recevez aujourd'hui Xavier Salmon, directeur du département des arts graphiques du musée du Louvre, commissaire de l'exposition Danser, embrasser qui vous voudrez, jusqu'au 29 février au Louvre-Lens.
Alors évidemment qu'il y a beaucoup de peintures et de gravures et de dessins et d'études dans cette exposition du Louvre-Lens et même des fresques, mais il y a aussi des objets d'art, il y a de la porcelaine notamment, Xavier Salmon.
La porcelaine, des tapisseries, de l'orfèvrerie.
Et puis de somptueux costumes de carnaval. Ça tombe bien parce que l'exposition va jusqu'à la fin du mois de février. Ça va être une sorte de carnaval à Lens, grâce à vous. D'où viennent-ils ces costumes étonnants?
Alors ils viennent d'un endroit absolument magique d'Europe, qui se trouve en Bohême du Sud, donc à une centaine de kilomètres de Prague, qui est un château qui porte le nom un petit peu barbare de Chemski Krumlov, qui est protégé par l'UNESCO. Ce site fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et au XVIIIe siècle, cette résidence, qui est posée sur un éperon rocheux au pied de la Moldau qui forme des courbes, la famille Schwarzenberg a créer une vie de cour avec un théâtre tout à fait exceptionnel qui est encore...
Tout ça très baroque, très coloré.
Voilà, dans son état du XVIIIe siècle. Donc avec Drottningholm en Suède, c'est l'un des très rares théâtres d'Europe à présenter ses décors de scène, toute sa machinerie et surtout...
Et ses costumes.
Voilà, ses costumes. C'est une collection éblouissante de plus de 600 accessoires, costumes, le carquois de l'amour en papier mâché doré, des casques, des chaussures, tout ce qui était justement porté par ces acteurs comme Adrienne Lecouvreur, et qui malheureusement ont généralement disparu. Et là,
des dominos, des casaques à crever, des espèces de caftans de Pierrot ou d'Arlequin, enfin toute cette magie en fait.
Tout cela est conservé et pour la première fois donc au Louvre-Lens, le public va pouvoir comparer les œuvres de Watteau, celles de Lancret qui
de Pater,
qui nous décrivent le Pierrot, qui nous décrivent Pantalone et qui nous décrivent tous ces héros de la Commedia dell'arte avec les costumes, donc ces costumes que Watteau a pu admirer et qui sont là présents à côté de leurs œuvres
et qui sont des costumes d'époque.
Qui sont des costumes du XVIIIe siècle, oui, dans un état de conservation éblouissant parce que à la fin du XVIIIe siècle, ils ont été rangés dans des malles et ils ne sont ressortis que très récemment.
Vous avez tenu à ce qu'il y ait une dimension assez internationale à cette exposition et même européenne, en montrant évidemment l'attraction, le pouvoir d'attraction exercé par le modèle français au XVIIIe siècle.
Paris est une cité, la cité des arts, vers laquelle tous les yeux se tournent. Et l'Europe se divise. Elle rend hommage à Paris. On pense à Frédéric II, à la cour de Potsdam et de Berlin,
qui,
dans sa jeunesse, reconstitue le mode de vie des tableaux de Watteau à Rheinsberg. On pense à l'Espagne, qui elle aussi regarde vers Paris et l'exposition comprend un de ces cartons de tapisserie peints par Goya pour la famille royale, qui est un hommage à l'art français, puisqu'il s'agit d'une escarpolette. Mais aussi, c'est une Europe qui reprend les modèles du Nord, à Vienne, à Prague, en introduisant ces personnages tels que Teniers ou Steen, ou bien encore Rembrandt, les avaient placés sur leur composition. Et on voit donc que les centres d'influence sont divers.
Alors ça, c'était la première salle, si je puis dire. On arrive ensuite dans l'univers de Watteau. Le tableau lui-même a fait le voyage, quand même, depuis Paris.
La première fois.
Le pèlerinage à Cythère quitte Paris pour la première fois.
Pour la première fois. Le pèlerinage a été peint donc pour l'Académie royale, qui se trouvait au Louvre. Il est resté au Louvre depuis 1717. Il avait fait quelques mètres en 1984, lorsque Pierre Rosenberg et Margaret Morgan Grasselli avaient organisé la rétrospective du Grand Palais. Et là, pour la première fois, effectivement, il quitte Paris et il est offert aux visiteurs du Louvre-Lens.
Quand un tableau comme celui-ci voyage, il est escorté par la gendarmerie nationale?
Il est surtout dans des caisses extrêmement résistantes au changement climatique. Il est convoyé de manière un peu discrète, parce que c'est vrai que bouger un tel chef-d'œuvre est en soi un événement.
Alors ensuite, c'est la salle de Český Krumlov dont vous parliez, donc avec tous ces extraordinaires costumes qui sont donc mis en perspective avec les dessins, les études, les sanguines de Pater, de Watteau lui-même, bien sûr.
Et avec aussi des extraits, parce que j'ai souhaité que cette exposition soit également auditive, et c'est pourquoi le public, au tout début de l'exposition, est invité à prendre place dans une clairière avec des figures découpées dans la tradition de ces découpures du XVIIIe siècle, avec la complicité de Véronique Dolfus, qui est la scénographe. Donc nous avons reconstitué cette atmosphère de la pastorale. Et dans la salle théâtrale, on peut entendre donc les vers de Marivaux, les chants de Mozart, voir les ballets de Campra.
Ce jeu sur le déguisement qu'on appelait le travestissement au XVIIIe siècle, un jeu sur les genres aussi.
Qui a donné d'ailleurs naissance à un certain type de portrait. Et l'exposition réunit ces images de Louis XV déguisé en pèlerin de Cythère, de grands personnages de la cour.
Tout jeune Louis XV,
voilà,
dire.
Voilà, tout jeune, qui portait ces costumes. Ils étaient encore très présents en 1745, lorsque le dauphin épouse sa première femme, l'infante d'Espagne. On donne un grand bal, qui sera aussi un bal qui vous est cher, le bal des Ifs. Et à cette occasion, donc...
La célèbre gravure de Cochin.
Le dessin de Cochin nous montre ces pèlerins, ces pèlerines, ces bergers, ces bergères qui sont les membres de la cour déguisés pour rendre hommage à ces sujets.
Alors les tréteaux de vos bals sont en pleine clairière, si je puis dire, et en descendant de scène, on se retrouve dans la nature, dans cette campagne qui est le véritable décor de la fête galante.
Oui, et cela devient d'autant plus vrai avec l'œuvre de François Boucher, qui va donner une variante à la fête galante en peignant pour le prince de Rohan dans son hôtel de Soubise des fameux premiers sujets de pastorale qui là encore sont inspirés par le théâtre, puisque Boucher est très ami avec Charles-Simon Favard, et on retrouve là à nouveau Maurice de Saxe, puisque Favard a tenu le théâtre de Maurice de Saxe. Et Favard s'était fait une spécialité de ces petites pièces de pastorale qui mettaient en scène des bergers, des bergères, dans des sentiments simples.
C'est assez extraordinaire que le XVIIe siècle place son imaginaire dans l'Olympe, si je puis dire, et dans la grandeur divine, et le XVIIIe dans les petites amours de bergers et de bergères.
Le XVIIIe revient sur Terre.
Oui, c'est ça.
Il donne une dimension humaine.
Une terre aimable.
Voilà, une terre heureuse. Et l'exposition en offre un témoignage tout à fait éblouissant.
Et puis l'on finira par ces porcelaines, notamment tous ces objets d'une finesse, d'une fragilité en même temps. C'est-à-dire que tout ça est très beau, très pur, mais très fragile. Ça fait penser au verre de sa main, hein. Geste de menuet et cœur de biscuit fin.
Il y a d'ailleurs une Joconde de l'art de la porcelaine prêtée par le Victorian and Albert Museum de Londres, qui est une leçon de musique par la manufacture de porcelaine de Chelsea. Et lorsqu'on regarde en détail ce groupe de porcelaine, eh bien on voit ce buisson d'aubépine qui présente des centaines et des centaines de petites feuilles et de petites fleurs. Et là aussi, bouger un objet aussi fragile est tout à fait exceptionnel.
Oui, ça doit être très compliqué à transporter, on peut l'imaginer. C'est avec tout ça... Nous n'avons pas donné à nos auditeurs l'envie de faire le voyage jusqu'à Lens pour aller visiter cette exposition. Alors que voulez-vous, moi je démissionne. Dansez, embrassez qui vous voudrez. Fêtes et plaisirs d'amour au siècle de Madame de Pompadour. C'est donc au Louvre Lens et c'est jusqu'à la fin du mois de février. Vous avez un jour de plus cette année puisque 2016 est une année bissextile.
Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand revient sur les origines des bibliothèques publiques.
Au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question que vous pose Anne-Cécile, fidèle auditrice sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Elle voudrait savoir depuis quand existent les bibliothèques publiques.
Vous savez, il existe des bibliothèques, déjà, depuis que l'homme écrit. Il faut aller chercher la trace de la plus ancienne bibliothèque au 4e millénaire avant notre ère, au nord de l'actuel Irak, à Ninive. Vous vous doutez bien qu'à l'époque, on empilait, si je puis dire, des tablettes de terre cuite, bien sûr. Les parchemins n'apparaîtront que beaucoup plus tard, entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère. Avec les avancées de l'écriture, les bibliothèques vont peu à peu se multiplier. Il y en avait beaucoup dans l'Égypte antique, bien sûr. Celle d'Aristote en Grèce était très réputée. Je ne parlerai pas de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, bien sûr, fondée au IVe siècle avant. dans notre ère par le premier Ptolémée. Mais c'est à Rome que naît la notion de bibliothèque publique, avec une consultation immédiate et facile. Des bibliothèques qui sont ouvertes à tous les citoyens, ce qui pendant très longtemps n'était pas le cas. Il y avait toujours un propriétaire, un collectionneur, quelqu'un qui vous autorisait à entrer dans sa bibliothèque. Et évidemment, avec la naissance de l'imprimerie au 15e siècle de notre ère, on va avoir de nouveau des bibliothèques qui, elles, vont prendre une toute autre forme. Ces bibliothèques ne seront destinées au public que dans le milieu du 18e siècle. C'est à partir de 1803 que Bonaparte charge les municipalités de créer partout des bibliothèques publiques. Quant aux bibliothèques scolaires et universitaires, il faudra attendre le règne de Napoléon III pour les voir se généraliser. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.